Lizzie présente Les charmes discrets de la vie conjugale de Douglas Kennedy, lu par Julie Pouillon. Certains s'élèvent par le vice, d'autres déchoient par la vertu. Shakespeare, Mesure pour mesure, acte 2, scène 1. Comme d'habitude, pour Grace, Max et Amelia, mais aussi pour Joseph Strick. Première partie, 1966-1974. Chapitre 1. Il a fallu que mon père soit arrêté pour qu'il devienne célèbre. C'était en 1966. Papa, ou John Winthrop Latham, ainsi que tout le monde à part sa fille unique l'appelait, avait été le premier professeur de l'Université du Vermont à s'élever publiquement contre la guerre du Vietnam. Au printemps de cette année-là, il avait pris la tête d'une mobilisation estudiantine opposé à la collaboration de l'université avec une compagnie chimique qui fabriquait du napalm. La protestation avait culminé en un sit-in devant le bâtiment administratif, dont les accès avaient été pacifiquement bloqués pendant 36 heures par 300 étudiants menés par mon père. Quand la police et la garde nationale étaient intervenues, les manifestants avaient refusé de se disperser et une chaîne de télévision nationale avait filmé l'incarcération de papa dans la prison locale. Cela avait fait grand bruit à l'époque. Il avait été à l'origine de l'une des principales manifestations contre la guerre. L'image de ce respectable blanc en veste de tweed et chemise Oxford, appréhendé sans ménagement par deux membres des unités anti-émeutes, avait fait l'ouverture de la plupart des bulletins d'information à travers les États-Unis. Le jour qui a suivi son arrestation, tout le lycée m'a dit que mon père était vachement sympa. Et deux ans plus tard, quand je suis entrée à l'université où il enseignait, j'ai reçu les mêmes compliments dès que les gens découvraient que j'étais la fille du professeur Latham. « Très sympa, ton père. » Je hochais brièvement la tête et avec un bref sourire, je confirmais « Ouais, c'est le meilleur. » « Ne vous méprenez pas. J'adorais mon père et c'est encore le cas et ça le sera toujours. Mais enfin, quand on a 18 ans comme moi, en 1969, que l'on essaie désespérément de se forger un minimum d'identité et que son cher papa s'est transformé en une manière de Thomas Paine local, il est facile de se sentir éclipsé. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. J'aurais pu essayer d'échapper à son imposante stature morale en changeant de campus. J'ai opté pour une autre solution. Je suis tombée amoureuse en plein milieu de ma seconde année. Dan Buchan était l'antithèse de mon père. D'accord, il était grand et dégingandé lui aussi, mais c'était leur seul point commun. Alors que papa alignait le cursus du WASP exemplaire, secondaire à Choate, puis Princeton, puis doctorat à Harvard, ne fréquentant que les sanctuaires de l'Amérique blanche, anglo-saxonne et bien-pensante. Dan venait d'un obscur patelin de l'État de New York, Glens Falls, où son père était chargé de l'entretien des écoles locales et sa mère tenait un petit salon de manucure, et il était le premier de sa famille à faire des études supérieures, qui plus est en médecine. Très timide, il ne s'imposait jamais et savait écouter mieux que quiconque. Il donnait toujours l'impression d'être plus intéressé par ce que l'autre avait à dire que par ses propres réflexions, ce que j'appréciais beaucoup. Je trouvais également un charme étonnant à sa réserve. Il était sérieux sans être rébarbatif, et contrairement aux autres étudiants, il savait exactement où il voulait aller. À notre deuxième sortie, il m'a confié autour de quelques bières qu'il ne briguait pas des spécialités aussi ambitieuses que la neurochirurgie, ni celles où on se faisait de l'argent facile comme la dermatologie. Non, il se voyait médecin généraliste. « Je veux être un modeste médecin de campagne, rien de plus », m'a-t-il assuré. Comme tous les carabins, il travaillait 13 heures par jour, étudiait sans arrêt. Le contraste entre nos existences respectives était frappant. Avec mes études de littérature et langue anglaise, je me voyais vaguement devenir enseignante quand je sortirais de l'université en 1973. À cette époque insouciante, seuls les étudiants en droit ou en médecine planifiaient leur avenir. Dan avait 24 ans quand je l'ai rencontré. Nos 5 années de différence semblèrent un gouffre au début, mais ça ne me déplaisait pas de fréquenter quelqu'un qui paraissait bien plus mûr et stable que les garçons que j'avais connus auparavant, même si mon expérience de la gente masculine était très limitée. Au lycée, j'avais eu un petit ami, Jared, toujours plongé dans les livres, assez bohème et en adoration devant moi, mais qui était parti étudier à Chicago, ce qui avait marqué la fin de notre relation. Aucun de nous n'était prêt à supporter les contraintes d'une histoire d'amour à distance. Ensuite, pendant le premier semestre à la fac, j'avais eu ma petite expérience de la marginalité freak en fréquentant Charlie, lui aussi charmant et cultivé et très créatif. C'est-à-dire qu'il composait un tas de poèmes qui, même du haut de mes 18 ans, me paraissaient lourdement empoulés. Charlie était tout le temps défoncé. L'un de ces types qui allument un joint avant leur première tasse de café. Bien que sceptique, je n'ai pas objecté au début. Et avec le recul, je pense que j'avais besoin de cette brève descente dans l'univers gentiment orgiaque des déviants du moment. On était en 1969, après tout, et l'hédonisme était de rigueur. J'ai supporté 3 semaines le matelas, même le sol de son studio, ainsi que ses monologues toujours plus abscons de planant professionnel, jusqu'au soir où je l'ai trouvé chez lui, en train de faire circuler un méga pétard avec 3 amis, tandis que le Grateful Dead se déchaînait sur la stéréo. « Hey !» m'a-t-il lancé avant de retomber dans un silence hébété. Lorsque, par-dessus le vacarme, je lui ai demandé s'il était partant pour aller au cinéma, il a répété « Hey !» tout en hochant la tête à la manière d'un sage qui m'aurait révélé un précieux secret concernant les mystères du karma. J'ai préféré ne pas m'incruster. Réfugié au cercle étudiant, j'avais attaqué un paquet de cigarettes Viceroy devant une bière solitaire quand Margie est apparue. C'était ma meilleure amie. Mince comme un roseau, avec une masse de cheveux sombres et bouclés, Margie était l'archétype de la fille de Manhattan. Elle avait vécu à Central Park West et avait été une élève brillantissime de l'un des meilleurs lycées qui soit, Nightingale Bamford. Ainsi qu'elle le reconnaissait volontiers, le cursus académique l'emmerdait tellement qu'elle s'était retrouvée à la fac d'État du Vermont. « Et dire que je n'aime même pas skier !» avait-elle ajouté lorsque nous avions fait connaissance. « Tu as l'air furax !» a-t-elle dit en s'asseyant près de moi et en chipant une de mes cigarettes. « C'était pas ça avec Charlie ?» Je me suis contentée de hausser les épaules. « La mise en scène habituelle dans son pseudo-phalanster » a-t-elle insisté. « Ouais. J'imagine que le fait qu'il soit mignon compense celui qu'il... » Elle s'était tue au milieu de sa phrase pour tirer sur sa cigarette. « Vas-y, termine. » Nouvelle bouffée spectaculaire. « Ce type est défoncé du matin au soir, donc il n'a pas énormément de conversation, n'est-ce pas ?» Je n'ai pu m'empêcher de rire. En vraie New-Yorkaise, Margie avait tapé dans le mille. Or, elle se passait elle-même au crible de sa lucidité et ne s'épargnait pas, ce qui expliquait sans doute pourquoi, 3 mois après le début de l'année, elle était toujours sans copain attitré. Ici, tous les garçons sont ou bien des skieurs acharnés, ce qui, dans mon dictionnaire des synonymes, équivaut à 0% de matière grise, ou bien des junkies qui ont le cerveau transformé en gruyère. Ils ne sont pas tous comme ça, quand même, ai-je protesté. Je ne parle pas spécialement de ton poète génial, ma chère. Tu dois prendre ça comme un constat général. Tu crois qu'il va souffrir si je le jette ? Hein ? Quoi ? Je crois plutôt qu'il tirera 3 tafs sur sa pipe à eau et qu'il aura tout oublié à la deuxième. Il m'a toutefois fallu une 15aine de jours avant de rompre avec Charlie. Je n'aime pas déplaire. Je cherche toujours à être appréciée. C'est un aspect de moi que Dorothy ne s'est jamais privée de critiquer, car étant New-Yorkaise elle-même et de surcroît ma mère, elle n'avait pas l'habitude de mâcher ses mots. « Tu sais, tu n'as pas besoin d'être sans cesse la plus aimée de tous et de toutes », m'avait-elle ainsi fait remarquer la fois où, au début du secondaire, je n'avais pas été élue déléguée de classe, à ma grande consternation. « Se distinguer de la masse bêlante me paraît au contraire plutôt positif », avait-elle poursuivi. Ou, pour le dire autrement, il n'a rien de mal à être plus intelligent que les autres. B de moyenne, ce n'est pas être plus intelligent que les autres. C'est médiocre, comme moi. Au lycée, j'avais B, moi aussi, et je trouvais ça très bien. Et j'avais seulement quelques amis, comme toi, et je restais le plus loin possible des pom-pom girls. Mais il n'y en avait pas, maman. Pas dans cette école de Quakers où tu étais. D'accord. Disons que je restais loin du club d'échecs. Ce que je veux dire, c'est que les filles les plus populaires sont presque toujours les moins intéressantes. Et elles finissent par épouser des orthodontistes, qui plus est. Et puis, ni ton père ni moi ne sommes déçus par toi. C'est tout le contraire. Tu es notre star.
Je le sais.
Ai-je menti? Je ne me voyais pas du tout en star, non. Surtout avec mon père qui, non content d'être le héros au contour taillé avec la serpe du radicalisme local, avait aussi écrit une biographie de Thomas Jefferson inscrite au programme de seconde, pour mon plus grand embarras, évidemment.